Vous écoutez toujours Délirium environnemental, le magazine d'information en environnement. Je vous rappelle que vous pouvez aller sur notre site internet qui se trouve au www.radiotelerium.net. Vous pouvez y aller pour plusieurs raisons, entre autres parce que la première personne qui nous enverra un courriel pourra se mériter la chance de gagner les changements climatiques, l'effet de serre expliqué, qui est un livre de vulgarisation scientifique sur les changements climatiques, qui est écrit par M. Claude Villeneuve et on l'a reçu de CO2 Solutions. Une autre bonne raison
non,
pour...
c'est professeur. Ok, excusez, je pensais que tu parlais de Claude Villeneuve, qui est une sommité québécoise dans les changements climatiques.
Absolument, c'est un ouvrage tout à fait magnifique, vraiment accessible, bien construit, vraiment, vous allez l'avoir gratuitement par la poste si vous êtes la première personne à nous envoyer un mail dans la section contact sur notre site internet. L'autre bonne raison d'aller sur le site internet, c'est parce que en bannière, à l'ouverture, en haut de la page, vous allez voir la campagne Acte B, qui est une pétition qui circule présentement pour éveiller le gouvernement de M. Charest sur la bêtise de ce projet de Bécancourt. Donc, en cliquant sur la bannière, vous allez avoir une foule d'informations qui vont vous convaincre qu'il faut signer la pétition en question. Donc, très facile de faire à partir de notre site internet au www.radiodelirium.net. Sans encore vouloir vous faire la pub pour ça, mais parce que c'est vrai, si vous allez sur notre site internet à gauche, vous pouvez aussi vous inscrire à la cyberlette, ce qui fait que vous allez recevoir chaque semaine la page frontispice du site internet avec toutes les nouvelles et que ça sera possible pour vous d'écouter l'émission de la semaine passée. Alors donc, on poursuit, comme je vous le disais, on fait une rétrospective, un bilan environnemental de l'année 2004 qui a touché la scène environnementale tant au Québec qu'à l'international. On parlait tout à l'heure de changement climatique. Non, c'est pas vrai du tout. D'énergie, on a beaucoup parlé des orientations énergétiques que s'apprête à prendre le Québec. Dans le monde entier, bien entendu, ça bouge, mais il reste encore quelques petites choses à préciser sur le dossier de l'énergie. Patrick Bonnet, tu voulais ajouter des petites choses?
Bien, rapidement, on a presque pas abordé justement ce... On a parlé des études sur l'éolien au Québec, le fameux appel d'offres de 1000 MW qui a quand même été le plus important appel d'offres dans le monde d'éolien jamais lancé au Québec. On a eu justement les réponses, c'est vraiment intéressant, mais encore une fois, malgré le fait que le gouvernement dit que ça va être magnifique en tout des investissements de 1,9 milliard, eh bien, j'ai rien contre le privé, mais lorsqu'on parle d'énergie et justement de connaissances, d'expertise qu'on pourrait se développer comme on a fait avec l'hydroélectrique ici au Québec, eh bien, Hydro-Québec ne fait rien. C'est tout le privé qui va faire ça. Hydro-Québec va acheter l'électricité, il va juste changer ses lignes, puis arranger ça pour pouvoir moduler, si vous voulez, la tension pour les lignes pour acheter l'électricité. Donc, on a une super belle possibilité en tant que peuple de développer une expertise. Et je veux dire, avec des 100 000 MW, là, c'est énorme la quantité d'énergie. Présentement, on en a 39 000 MW au Québec dans tous les domaines. Donc, on pourrait se rendre riche à la limite juste en ayant de l'éolien et pas polluer, être des avant-gardistes sur la scène mondiale. Et on passe complètement à côté du bateau.
Surtout, ce qui est décevant, c'est de voir Hydro-Québec, qui était le promoteur du projet Sirois, qui est le promoteur de Bécancourt, et qui aussi, surveillez-le, est en train de proposer un projet identique au Sirois, mais en Abitibi. Eh bien, c'est de le voir être le promoteur de ces projets-là, où on doit acheter du gaz naturel pour produire, donc on dépend d'une rentrée de matière, et qu'il ne se lance pas dans l'éolien, où le vent est totalement gratuit, où aussitôt que les installations sont rentabilisées, eh bien, c'est de l'argent qui rentre à chaque année, simplement en termes de termes économiques, là, c'est beaucoup plus intéressant, un peu comme l'hydroélectricité l'est. Du coup, que les barrages sont recouverts, eh bien, c'est de l'argent qui rentre dans nos poches à chaque année, moins d'entretien. Donc, c'est complètement aberrant de voir que le gouvernement ne se lance pas là-dedans.
Sauf qu'évidemment, point de vue commercial, il n'y a pas une compagnie qui produit du vent. Contrairement à Gaz Métropolitain qui vend du gaz naturel, on savait qu'encore en 2004, Hydro-Québec était principal actionnaire de Gaz Métropolitain, d'où l'intérêt à faire ces espèces de bêtises-là avec le thermique. Peut-être une chose à mentionner sur 2004, qu'on a mentionné très, très rapidement, c'est évidemment le syndrome du castor qui va se répéter pour les 20 prochaines années. Hydro-Québec s'engage à mettre 3,5 milliards par année sur les 20 prochaines années pour l'hydroélectrique. Ça a passé comme dans du beurre, encore une fois, mais c'est quelque chose qu'il faut mentionner absolument parce que ça va teinter toute l'orientation énergétique des 20 prochaines années.
Parce qu'on garde, justement, on se limite à la fameuse hydroélectrique quand on pourrait développer d'autres expertises. On a cette expertise-là, qui est nice. On a déjà assez harnaché de grosses rivières au Québec. On veut harnacher. L'étude d'impact vient de sortir du Québec sur la Rupert, qui est à peu près la dernière grande rivière vierge au Québec, qui s'approvisionne dans le plus grand lac naturel, qui est le lac Mistassini. Une richesse incroyable naturelle. Et on veut juste harnacher tout le Québec. Ces milliards-là par année, lorsqu'on parle justement en deux, on va voir combien ils donnent, mais en 2 et 3,5 milliards par année, si beaucoup d'argent d'ici 2020. Et pourquoi ne pas diversifier justement notre portefeuille énergétique, entre autres l'éolien, c'est magnifique avec le couplage avec l'hydroélectrique. Lorsqu'il y a du vent, on ferme les barrages, on est en magasin de l'énergie.
Dans la question énergétique, je veux juste sortir du Québec un petit peu. Extrêmement important à mentionner aussi, 2004, ça a été une réorientation états-unienne sur l'énergie. Un gros engouement pour le charbon, mesdames et messieurs. On a vu ça en 2004. 94 nouvelles centrales au charbon qui ont été déclarées en construction en 2004 aux États-Unis. Faut pas oublier qu'on a 25% de notre pollution à Montréal qui vient directement des États-Unis. Les centrales au charbon, c'est des émettrices incroyables de gaz à effet de serre, de mercure et d'autres contaminants. Eh bien, ça nous passe sous le nez, mesdames et messieurs.
Et continuons à l'international, la Chine, qui va nous rentrer dedans assez rapidement. Ouais. Vous savez, le nombre d'usines au charbon aux États-Unis est pratiquement insignifiant à côté de ce qui se passe en Chine. Et plus de la moitié des usines nucléaires qui sont en projet sur la Terre sont en Chine actuellement. Et la Chine, en tant que futur joueur économique majeur du monde, est en train complètement de rechanger la situation économique énergétique planétaire. Pardon.
Donc, on se rend compte que les débats énergétiques sont vraiment centraux dans les questions environnementales. Je pense qu'encore une fois, en 2005, on va s'attarder à ces sujets-là avec énergie et engouement.
Quel calembour, Nicolas Mainville. Je ne voulais pas nommer ton nom, mais c'est Nicolas Mainville. Que voulez-vous? Hey, mais on va quand même s'arrêter parce que les questions énergétiques, changement climatique, on n'a pas eu le temps de parler de transport, on reviendra un peu plus tard. Moi, ma seule déception, c'est qu'il n'y ait pas encore de voiture verte made in Québec, mais je vous en reparlerai tout au long de l'année. Donc, on va s'arrêter parce que l'environnement, c'est pas seulement l'énergie et les changements climatiques, c'est aussi bien d'autres choses, dont les problèmes liés à la biodiversité, à la pollution, à l'eau, etc. Donc, au retour, enfin, on s'y attaque. Hey, vous écoutez toujours un délirium environnemental. Et oui, on s'est donné un devoir de mémoire cette semaine. On a voulu faire une rétrospective, un bilan de l'année 2004. On lâche les changements climatiques et l'énergie pour vous parler d'un autre de ces très grands dossiers qui a occupé l'espace public, fort heureusement. Par contre, parfois de drôles de façons. J'y dirais, de façon générale, le dossier de l'alimentation a vraiment occupé l'espace public. Tous les problèmes liés à l'alimentation, qu'on parle de la vache folle canadienne, les problèmes du bœuf canadien, des gras trans qui ont été éliminés comme ça, hein? Quand après ça, on va essayer de me dire qu'il y a des choses, que c'est trop difficile, on n'a pas de produits substituts, blablabla. La carte du gras trans, on pourra la ressortir, qu'on se le redise plus souvent.
Ouais, c'est aussi que les gras trans ont été éliminés?
Ben oui, grâce au NPD, par exemple. Ça va peut-être plus la carte du gouvernement minoritaire que la carte du gras trans, mais bon.
Mais bon, c'est quand même clair que quand l'industrie s'y met, on est capable de retirer un produit parce qu'il est jugé dangereux. Encore faut-il qu'il y ait des études pour s'assurer que ce soit dangereux, ces produits-là. Donc, un de ces produits qui est en marché depuis, ma foi, une dizaine d'années, bien certainement, qui fait jaser pour de bien drôles de raisons. On en a beaucoup parlé en 2004 pour plusieurs raisons, entre autres parce que l'Europe a levé le moratoire sur les OGM, et je parle donc des OGM, mais également parce qu'ici, au Québec, en juin, il y a la CAPA qui s'est tenue, la commission d'enquête sur l'agriculture, les pêcheries et l'alimentation, dont les recommandations allaient complètement dans le sens de l'étiquetage. Madame Ouda Pépin, Frida Ouda Pépin, Fatima Ouda Pépin, dans ses recommandations, allait clairement en disant, on doit à tout prix étiqueter, c'est la moindre des choses. Je veux dire, on parle de démocratie, là, c'est même pas une question économique, c'est de la démocratie, donc ça prévaut, donc on étiquette. Par contre, le gouvernement fédéral, Madame Gauthier, ministre provincial de l'environnement, mais bien de l'agriculture, elle continue de nous dire, mais non, on va suivre le fédéral, etc. Donc, le dossier des OGM, un dossier en pleine ébullition en 2004, à peu près 10 ans après leur mise en marché. Nicolas Mainville, tu as suivi le dossier tout au long de l'année, donc tu peux nous en parler un peu pour nous en faire le bilan.
Mais peut-être une étude qui est importante, qui est sortie en 2004, qui est le fun de relater, parce que ça fait plaisir à ceux qui se battent depuis longtemps contre les OGM. Vous savez, un des arguments principaux pour les OGM, c'est de dire ça réduit l'utilisation des pesticides. Eh bien, une étude aux États-Unis qu'on avait sortie au mois de novembre, je crois, non, octobre, qui nous montrait que l'utilisation des pesticides aux États-Unis était de 30 000 tonnes supérieure pour les organismes génétiquement modifiés que pour les organismes normaux. C'est-à-dire que les plantations aux États-Unis OGM avait demandé 30 000 tonnes de plus de pesticides, ce qui était complètement à l'encontre des prédictions des compagnies, ce qui est complètement à l'encontre des discours qui sont offerts par les Monsanto et toutes les autres. Et évidemment, c'est une étude importante à mentionner et qui fait plaisir.
Absolument, mais peut-être j'en profite pour reparler de cette étude aussi qui est sortie ici au Québec en septembre, si ma mémoire est bonne, cette étude sur le taux des pesticides, le taux de contamination par les pesticides chez les enfants en milieu urbain. Une petite étude faite sur 80 enfants seulement qui vivent en milieu urbain et dont les parents utilisent ou n'utilisaient pas des pesticides à des fins décoratives. Eh bien, les résultats étaient tout à fait accablants. Tous les enfants, chez tous les enfants, il y avait trace de pesticides, que leurs parents utilisent ou non des pesticides. Et pourtant, nous, ici, à l'émission, on avait bien ri de cette nouvelle-là, sachant que ces études-là avaient été faites partout autour du monde. Et partout autour du monde, on avait confirmé la présence de pesticides chez les enfants, avec les problèmes de santé qui peuvent s'en suivre. Donc, sur le dossier des OGM, également, la levée du moratoire en Europe, qui vaut la peine d'être mentionnée, absolument.
On peut en parler rapidement. Évidemment, ça a fait un précédent, puisque l'Europe était le dernier bastion, la gaule des OGM, en fait, qui résistait depuis le début contre les produits producteurs d'OGM, c'est-à-dire les États-Unis, le Canada et l'Argentine, les trois principaux. Je pense qu'un autre dossier extrêmement important, c'est la question du blé transgénique au Canada. Vous vous rappelez, en janvier, quand que Agriculture Canada s'était retiré du dossier, parce que, oui, au Canada, on finance l'industrie, c'est-à-dire Monsanto, pour produire le blé transgénique. Eh bien, on le faisait jusqu'en janvier 2004. Pour que, finalement, Agriculture Canada se sortir du dossier, on a déjà investi 500 000 $ pour ce fameux blé transgénique. Blé transgénique Roundup Ready de Monsanto, qui, en fait, est vraiment pas accepté sur les marchés étrangers. Tous les acheteurs de blé canadien ont menacé sérieusement le Canada. S'il y avait comme début de production de blé transgénique au Canada, ça ferait un précédent. En fait, il y aurait même crise économique canadienne due au fait que ça aurait potentiellement contamination sur le blé normal.
Parce que c'est ce qu'il faut répéter. Malheureusement, il y a une grosse stigmatisation du débat en matière d'OGM. On dit ceux qui sont pour, ceux qui sont contre. En fait, de dire qu'il y a des gens qui soient pour puis qui soient contre, c'est extrêmement réducteur. Qu'on parle uniquement d'étiquetage, moi aussi, c'est quelque chose qui me tanne beaucoup parce que pendant qu'on parle d'étiquetage, justement, on ne parle pas de pollinisation croisée, du fait qu'il y a des risques environnementaux qui sont liés à ça, que si des agriculteurs font pousser du blé bio à côté d'un blé transgénique, les risques de contamination sont extrêmement grande. Plein de phénomènes se sont passés en 2004, nous le confirmant. La question du maïs transgénique au Mexique qui a été problématique, entre autres choses.
On se rappelle aussi du cas Percy Schmeiser.
Absolument.
Ici, qui avait été poursuivi par Monsanto pour avoir eu sur ses terrains des plants génétiquement modifiés alors qu'il n'en avait pas acheté la semence. Bon, Monsieur Schmeiser qui a perdu en cours devant la multinationale.
Grande tristesse.
Puis ce que je trouve aussi inquiétant, c'est de voir, bon, vous savez, on parle beaucoup de Monsanto parce que c'est l'exemple qui, au Canada, nous touche le plus. Mais toute cette organisation-là des firmes biotechnologiques et aussi pharmaceutiques qui vivent très, très, dans une proximité très, très grande, Pfizer, Aventis, Monsanto, pour nommer que ceux-là, on voit que du côté de la pharmaceutique, aussi les études sortent pour nous montrer que les médicaments qu'on nous vend depuis des années sont de plus en plus nocifs. Pensez au Botox, qui est peut-être le...
Ça, c'est tellement
Viox,
clair.
Botox,
c'est pas la même chose.
Donc,
très bon exemple, parce que quand on pense aux médicaments qui ont été retirés des marchés en 2004 parce qu'ils avaient mal été vérifiés, mal été testés en termes d'innocuité sur la santé des gens, on met en marché des produits sans bien les tester, on a dû retirer des médicaments, attendez qu'on doive retirer, par exemple, des produits transgéniques sur les tablettes.
Complètement horrible. Une petite note d'espoir, par exemple, qui est peut-être importante à souligner, au dernier congrès de l'UPA, l'Union des producteurs agricoles du Québec, l'idée d'un Québec sans OGM est soulevée par l'Union des producteurs agricoles du Québec, ce qui est très intéressant. On se rappelle qu'avant, c'était l'Union paysanne, un peu, je vous dirais, la branche gauche ou la voie de gauche de l'agriculture au Québec qui défendait ces idées-là d'agriculture biologique, d'agriculture sans OGM. Et bien là, l'UPA, la plus grande union des producteurs agricoles au Québec, elle aussi met cette idée-là de l'avant et aussi met sur pied un comité cet hiver qui va étudier, dans le fond, est-ce que, économiquement parlant, les agriculteurs qui vivent déjà des moments difficiles au Québec peuvent supporter, dans un contexte mondial, cette idée-là.
Parce qu'il faut rappeler qu'au Québec, 75% du canola qui est produit au Québec est transgénique. C'est pas n'importe quoi. 30% de toute l'agriculture québécoise est faite à base de plantes transgéniques. Donc, c'est quand même un gros dossier au Québec et c'est important de le mentionner.
Définitivement un dossier qui sera à garder à l'œil, entre autres en termes d'étiquetage. Comme je le disais plus tôt, la commission, la CAPA, a donc recommandé qu'on étiquette les OGM. La ministre Gauthier de l'Agriculture continue de s'y refuser en attendant que le fédéral fasse quelque chose. Donc, c'est un dossier qui est à suivre également parce que la base de l'alimentation des Chinois, on sait que les Chinois sont extrêmement beaucoup, hein. Donc, le riz transgénique sera bientôt la base de l'alimentation des Chinois. Donc, c'est un autre dossier qui sera à garder à l'œil quand on se met à avoir une denrée de consommation de base comme ça qui est distribuée à grande échelle. On se souvient que les OGM ont été testés sur des rats et que les rats ne réagissent pas comme les humains aux différentes toxines.
C'est mon commentaire. Pendant que tu parles de l'international, juste une petite plug rapide. Le Venezuela, cette année, en 2004, qui a banni toute culture OGM.
Bravo au Venezuela. Et vous écoutez toujours le bilan rétrospectif de l'année environnementale 2004 à Delirium Environnemental. Nous, on parle d'environnemental. Excusez-moi, ça faisait trois fois dans la même phrase. On entame un thème qui, moi, me tient beaucoup à cœur. Il me tient beaucoup à cœur parce que je pense qu'on n'en parle pas suffisamment et parce que les moyens d'agir pour faire quelque chose sont beaucoup plus nébuleux. Les mobilisations citoyennes sont beaucoup plus absentes dans ce dossier-là. Et je parle de biodiversité, de perte en biodiversité, entendons-nous, d'apprendre qu'il y a des zones d'océan complètement mortes. Moi, ça me fait dresser les cheveux sur la tête et ça me fait très peur. Donc, le bloc biodiversité... C'est Nicolas Mainville.
Ben Patrick, je pense que tu as des bons chiffres. Il y a l'UICN qui est sorti encore une fois sa liste rouge. C'était quoi le chiffre exact?
L'UICN étant l'Union internationale pour la conservation de la nature. La liste rouge, c'est la liste qu'on sort de temps à autre pour nous rappeler...
À chaque année, en fait.
Possible, en effet. Pour nous rappeler le nombre d'espèces qui sont menacées dans le monde. Eh bien, l'an passé, c'est 15 503 espèces qui sont menacées. Et ça, je vous rappelle qu'on a seulement évalué 38 000 espèces. Donc, on considère qu'il y en a 1,5 million. Donc, évidemment, on ne peut pas donner des chiffres très exacts là-dessus. Juste pour vous donner une idée, le taux d'extinction actuel serait environ 100 à 1000 fois supérieur au taux qu'on qualifierait de naturel. On parle d'une espèce d'oiseau sur 8, une espèce de mammifère sur 4, une espèce d'amphibien sur 3 qui sont menacés, près de la moitié des tortues. Et ça, évidemment, c'est en raison, entre autres, de l'être humain. L'être humain, c'est la principale menace, évidemment. On parle de la perte de l'habitat, on parle aussi à l'agriculture, l'étalement urbain, à l'introduction d'espèces, entre autres, de l'espèce qui n'ont pas d'affaires dans certains écosystèmes, la surexploitation des ressources, la disparition des forêts et également les changements climatiques qui causent de graves problèmes face justement à la biodiversité. Et je pense que Nicolas, tu as une petite étude à cet effet.
Ben oui, c'était une étude importante justement qui faisait le lien entre réchauffement climatique et biodiversité. C'était paru dans Nature dans le mois de janvier, puis c'était quand même impressionnant. On parlait d'un million d'espèces menacées par le réchauffement climatique. En fait, évidemment, c'est des études relatives puisqu'on connaît pas toutes ces espèces-là. On en connaît seulement 38 000, comme Patrick disait. Mais de voir le lien qu'il y a entre les changements rapides qu'on observe sur la planète puis l'influence que ça a sur la biodiversité, c'est vraiment drastique, c'est vraiment inquiétant puisque les écosystèmes ont besoin d'un temps beaucoup plus grand, d'une échelle de temps beaucoup plus grande que ce qui se passe en ce moment comme changement climatique.
Pour s'adapter.
Et donc, l'effet est drastique. On parlait des amphibiens, un tiers des amphibiens qui sont menacés en ce moment, puisque ces organismes-là sont vraiment affectés directement par le climat, puisqu'ils respirent par la peau, entre autres.
Un exemple flagrant qu'on peut penser, qui n'est pas encore sur la liste des espèces en péril, mais entre autres l'ours polaire au Canada, qui risque fortement d'y arriver sous peu. Présentement, au Canada, on a 456 espèces qui sont en péril et je vous cacherai pas qu'il y en a là-dessus au Québec qui le sont. Et un des gros problèmes, quand lorsqu'on parle de biodiversité, souvent on fait le lien avec les aires protégées et on n'a pas beaucoup d'aires protégées au Québec. Notre stratégie d'aires protégées, on va en parler également, mais elle est complètement absente pour l'instant. Elle vient à peine de sortir et on est en retard à ce niveau.
Et ce qui est d'autant plus dommage, c'est que justement, si on veut favoriser ou du moins aider les écosystèmes, c'est en protégeant des aires. Le Québec tire de la patte à ce niveau-là et en plus permet une certaine négociation pour changer de statut certaines aires. On pense au Mont Harford ou au parc d'Oka qui sont présentement en train d'être réévalués afin de pouvoir accommoder des développements économiques ou des passages d'oléoducs. Donc c'est complètement ridicule.
Écoutez, moi je trouve ça complètement fou qu'on ait à se dépêcher avec un sujet aussi déterminant. Donc on va prendre notre temps sur celui-là. Je pense que c'est important. Certains scientifiques par rapport à la disparition et aux menaces sur les espèces desquelles vous venez de parler, messieurs, disent qu'on serait présentement dans la sixième grande aire d'extinction, ni plus ni moins. Donc, prenez des photos, futurs parents, parce que vos enfants ne verront peut-être pas ces beaux animaux sauvages. Je veux pas être alarmiste. On est souvent accusé d'être alarmiste quand on s'intéresse aux questions environnementales. Et c'est pas que je veux être alarmiste, c'est que c'est alarmant. On peut-tu juste se le dire? Merci.
Je pense que c'est important aussi de se réjouir avec certains acquis qu'on a eus en 2004, notamment la grande barrière de corail. Vous savez que 50% des coraux mondiaux sont menacés de disparition, entre autres à cause de la surpêche, mais aussi des changements climatiques et de la pollution. Eh bien, la grande barrière de corail, qui est le seul organisme vivant visible de l'espace, vous savez, on peut voir la grande barrière de l'espace. Eh bien, un tiers de la grande barrière est maintenant protégée grâce aux efforts de l'Australie. Et puis, on n'aura aucun droit de faire de la pêche dans la grande barrière de corail. Une autre chose qui est importante, 2 millions d'hectares qui ont été protégés en Amazonie brésilienne, des gros parcs, trois gros parcs qui ont été créés en 2004. Je pense que c'est important de le mentionner. Ça fait toujours du bien.
Une chose, on en a parlé en introduction de ce bloc sur la biodiversité. Nicolas Mainville, je tiens à ce que tu nous en reparles, parce que ça me semble tellement clair et je pense que ça va interpeller les gens et je pense qu'on n'en parle pas suffisamment. Cette question des grandes zones mortes dans les océans. Et tu nous as expliqué au cours de l'année 2004 le phénomène d'azote qui était à la base de ces ces extinctions massives de vie dans des espaces de grands espaces marins. Donc, tu peux peut-être juste nous réexpliquer un peu en deux mots qu'est-ce qu'il y en est.
C'est en fait le programme des Nations Unies pour l'environnement qui a vraiment lancé un cri d'alarme en 2003, qui est sorti en 2004, puis là, on en parle en 2005, sur les zones mortes, un phénomène qui est créé par la production d'azote, que ce soit par l'exhaust des chars, par l'agriculture en général. On émet beaucoup d'azote artificiel ou un surplus d'azote dans nos écosystèmes aquatiques qui vont se retrouver dans l'océan. Cet azote-là provoque des blooms d'algues, donc des productions, une croissance, une explosion massive d'algues qui vont se déposer dans le fond marin et entraîner la fermentation et donc la consommation de l'oxygène dans toute la colonne d'eau. Donc ce qu'on est en train d'observer depuis 10 ans, c'est qu'il y a eu doublage,
deux fois plus
de zones mortes mesurées. Donc ces zones mortes, c'est des zones sans oxygène.
Et tu m'expliquais que quand les poissons passent à travers, ils se retrouvent...
Il n'y a aucune vie, c'est vraiment dramatique. En fait, c'est un phénomène qu'on peut mesurer partout sur la planète. Il y a 150 zones mortes en ce moment. La plus grosse, 70 000 km², c'est la taille de l'Irlande, mesdames et messieurs. Et puis ces zones mortes-là, lorsque les poissons rentrent, lorsque les grands bancs de poissons rentrent, meurt instinctivement puisqu'il n'y a pas d'oxygène dans l'eau.
Pas instinctivement, mais instantanément.
Instantanément, merci. Donc, évidemment, un phénomène extrêmement alarmant.
Et pour ceux qui veulent davantage d'informations parce que c'est envoyé rapidement, allez consulter le GEO Yearbook 2003. C'est le programme des Nations Unies pour l'environnement qui font ça. C'est l'état de la planète, si vous voulez, en 2003.
En français, c'est Annales de l'avenir de l'environnement mondial.
Le lien sera sur notre site web au www.radiodérium.net.
Peut-être vous ramener plus chez nous, le lac Saint-Pierre sur le fleuve Saint-Laurent est en train de vivre une situation tout à fait analogue. Présentement, toute la partie donc qui n'est pas dans le chenal maritime, dans le milieu du lac, est en train de s'eutrophier, de perdre son oxygène à cause des déchets agricoles, entre autres, que l'on jette dans l'eau. Et ce qui arrive, c'est que justement, les plantes aquatiques qui vivent dans les milieux humides sur le bord du Saint-Laurent sont tellement nombreuses qu'elles vident le lac de l'oxygène et la faune, mais elle, une année ou deux plus tard, est bien qu'à manquer.
Et on en parle souvent, entre autres le lac Saint-Pierre, qui est réserve mondiale de la biosphère de l'UNESCO, mais qui n'est pas protégé sinon par ce statut-là. Donc, c'est pas un statut légal de réserve d'air protégé au Québec. Et je vous parlais tantôt du problème des aires protégées. Écoutez, on a un objectif de 8% d'air protégé au Québec. On est loin d'avoir atteint cet objectif-là. Le Parti libéral du Québec s'est engagé à avoir ce 8%-là d'ici 2005. De toute évidence, on est en 2005 et ce n'est pas là. Et la nouvelle stratégie, c'est pour 2007. Donc, encore une fois, on prend notre temps. Au niveau international, de plus en plus, on parle de protéger 12% du territoire. Au Québec, on est à quoi? Environ 5%, plus ou moins. Et de cette partie, une grosse partie, c'est de la toundra. C'est dans le nord québécois. Et encore une fois, on protège des endroits, et c'est la même chose au niveau mondial. On protège des endroits qui sont faciles à protéger, mais on ne protège même pas les endroits où il y a des espèces en péril.
Et il faut s'inspirer du mouvement mondial, comme tu l'as dit, comme tu mentionnais, le lac Saint-Pierre, réserve mondiale de la biosphère, la biodiversité de l'UNESCO. Eh bien, en 2004, il y a 19 nouvelles réserves de la biosphère qui se sont créées dans le monde, dans 13 pays. C'est important de mentionner ces choses-là, c'est très positif. Et on est content, 19 nouvelles réserves. Évidemment, on va revenir tout à l'heure sur la commission Coulombe.
Oui, parce que je trouve ça important, on dit c'est important de mentionner tout ça. Il y a tellement de choses qui seraient importantes. On aurait pu faire une émission qui durait une semaine, 24 heures sur 24, si on avait vraiment voulu parler de tous les dossiers environnementaux qui sont importants. Donc, au retour, on continue un peu de parler d'eau. J'aimerais que vous me parliez de la question de l'œstrogène dans le fleuve Saint-Laurent, le Prozac en Grande-Bretagne. Je veux dire, c'est grave quand t'es rendu que tu prends un verre d'eau puis tu t'empoisonnes de médicaments. C'est là qu'on est rendu.
Je veux faire partie de la crème, mais c'est pas évident. J'évite des obstacles, mais plus repartir vite.